lever, tiens, hein, qu'on vous identifie. Amen. Voilà, l'Arche de Noé qui nous visite.
Bienvenue.
Ce sont des frères
Bienvenue.
Et sœurs chers à notre cœur et une église avec laquelle on a vraiment plaisir à collaborer et c'est surtout de l'amitié avant de la collaboration. Merci Christophe.
Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Bon, j'ai pris un peu de hauteur, hein, comme on a dit la semaine dernière, c'est pour voir ceux du fond, parce que si on reste en bas, c'est un peu compliqué. Donc, ce matin, nous allons aborder le thème de l'espérance chrétienne. C'est un thème riche et varié, et évidemment, nous allons voir ce qu'en dit la Bible, hein, la parole de notre Créateur et Rédempteur. Déjà, si c'est notre Rédempteur, c'est qu'il y a une espérance, évidemment. Hein. Nous allons voir que l'espérance chrétienne, c'est-à-dire celle qui est fondée sur Jésus-Christ, a des spécificités, elle a quelque chose d'unique. Ce n'est pas un vague espoir qui nous aide à vivre et à tenir le coup, même si plus tard cet espoir se révélerait être faux ou trompeur. Non, c'est une espérance solide. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, verset 19, nous dit, en parlant de cette espérance, elle la compare à l'ancre de notre vie sûre et solide. Une ancre, il peut y avoir des flots qui passent dans tous les sens, des vents, ça nous tient accrochés. Les tempêtes peuvent être là, on est accroché, c'est sûr et solide. Et on verra plus tard sur quoi elle s'appuie pour être si solide. Maintenant, imaginez-vous dans un monde où il n'y a aucune espérance future certaine. La seule issue possible étant la mort, la séparation à jamais avec tout ce que vous aimez, ainsi que l'impossibilité de savoir ce que va devenir tout ce que vous avez entrepris, construit dans votre vie, que ce soit vos relations ou autre chose. Quel sens donner à ce que vous vivez? Et encore plus si ce que vous vivez est difficile, voire très difficile. Quel sens donner à une vie marquée en partie, plus ou moins selon les vies, selon les personnes, par la souffrance? Léo Ferré a très bien exprimé cela dans la chanson très connue « Avec le temps ». Je ne vais pas vous lire toute la chanson, je vais vous en lire quelques paroles qui m'ont marqué. Le refrain « avec le temps va, tout s'en va, avec le temps tout s'évanouit ». Avec le temps, va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, tout ce qu'on a construit. Hein. Avec le temps, va, tout s'en va, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard. Et l'on se sent tout seul, et on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Juste là, un petit aperçu de ce que je vais dire plus tard, entre autres, mais avec le temps, on n'aime plus. La Bible nous dit que l'amour ne disparaîtra jamais. Déjà, on voit une grosse différence. La Bible nous dit que l'amour que nous avons vécu, que nous avons semé dans cette vie, sera transporté de l'âge présent à l'âge futur. On a une espérance, tout ne disparaîtra pas avec la mort. Il y a un pasteur, le pasteur Tim Keller, qui dit, je le cite, « S'il n'y a pas d'espoir réel pour l'avenir, vous essayez de vous créer un peu de bonheur avec le peu de temps qu'il vous reste, mais à la fin, il n'y a rien d'autre que l'obscurité. » Ces questions, toutes les sociétés se les sont posées et tout le monde se les pose plus ou moins clairement. Hein. Quel sens a la vie? Que se passe-t-il après la mort? Et les écrivains bibliques se la sont posés aussi. Dans l'Ancien Testament, l'Ecclésiaste, un livre de sagesse, nous livre ses impressions à partir de ce que l'on voit seulement. Si l'on imagine qu'il n'y a rien de plus, s'il n'y a pas de notion d'espérance. Et au début de son livre, l'écrivain dit, en Ecclésiaste 1, verset 2, « Vanité des vanités, dit le maître, tout est dérisoire. En effet, à vue d'œil, pourquoi tant d'efforts et de peines si tout finit dans une tombe ou une urne funéraire ?» Et plus tard, dans son livre, l'Ecclésiaste dira, en verset 2, 18-19, « J'ai fini par prendre en dégoût tous les travaux que j'avais accomplis sous le soleil et pour lesquels je m'étais donné tant de peines, parce que je devrais tout laisser à mon successeur. Et qui peut savoir si mon successeur sera sage ou sot ? Pourtant, c'est lui qui disposera de tout ce que j'ai acquis sous le soleil par mon labeur et par ma sagesse. Cela aussi est dérisoire. » Et encore plus tard, toujours dans l'Ecclésiaste, au chapitre 9, versets 2 et 3, la question de la conduite de l'homme est posée, puisqu'en apparence, le juste et les méchants connaissent le même sort. Je vous cite l'Ecclésiaste, « Tout est pareil pour tous, un même sort atteint le juste et le méchant. » celui qui est bon et pur et celui qui est impur. Un des plus grands maux parmi tout ce qui se passe sous le soleil, c'est que tous les hommes connaissent un sort identique. Voilà pourquoi les hommes sont remplis de méchanceté et la déraison règne sur leur cœur tout au long de leur vie. C'est qu'après cela, il y a la mort. Alors attention, le livre de l'Ecclésiaste ne se résume pas à ce que j'en ai dit, car à la fin, il invite son disciple et le lecteur à respecter Dieu et à lui obéir, car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Ça, c'est les deux derniers versets de l'Ecclésiaste. Et les citations que je viens de lire auparavant ne sont pas réellement son point de vue, mais plutôt l'expression volontaire d'un point de vue sans Dieu, sans perspective éternelle, celui de l'expérience à partir de ce que l'on voit. En fait, il s'est mis à la place de celui qui ne se fie qu'aux choses visibles. Mais voilà ce que ça donne si on se fie qu'aux choses visibles en pensant que tout s'arrête à la mort. Et c'est parfois ce que peuvent ressentir nos contemporains dans ce monde, dans notre société, comme nous l'avons vu avec la chanson de Léo Ferré tout à l'heure. Et cette mise en oubli de l'espérance peut nous affecter aussi. Nous pouvons être omnibulés par les choses matérielles et visibles qui nous entourent et en oublier que ce n'est que passager. Nous sommes souvent soumis à un discours anxiogène, des risques pour la planète, des problèmes économiques, de nombreux conflits, l'insécurité, et parfois avec raison, il y a des bonnes raisons d'entendre ces discours, sans parler de nos difficultés personnelles qui se greffent sur ces grands mots de société. Marx disait à un moment, ou alors même notre société nous propose du bien-être. Alors paradoxalement, des fois, notre société, pour répondre à cela, à cette peur de la mort, à cette peur de toutes les catastrophes, va répondre en nous proposant un bien-être matériel, un confort. De quoi oublier que tout dans cette vie va finir mal en apparence. Et si Marx disait « la religion est l'opium du peuple », je pense que s'il avait connu les smartphones et les écrans, il aurait changé sa citation. Parce qu'à ce moment, c'est ça l'opium du peuple, entre autres. Et l'évangile, que propose-t-il ? Alors, on va voir... Excusez-moi. On va voir quelle est l'espérance chrétienne, que propose l'évangile sur cette espérance chrétienne, c'est-à-dire celle qui est liée à Jésus-Christ. Alors, Paul a dû répondre à plusieurs reprises à de jeunes églises. En fait, toutes les églises étaient jeunes du temps de Paul, dont elles avaient un arrière-plan païen et grec. Et il a dû répondre pour préciser quelle était cette espérance chrétienne et pour corriger certains points de vue erronés concernant leur vision de l'espérance attachée à Jésus-Christ. Et on va voir ce qu'il en dit spécifiquement en 1 Corinthiens 15. Alors, on ne va pas lire tout le chapitre qui traite de la résurrection. Mais je vous encourage à le faire chez vous pour ceux qui ne l'ont jamais lu, parce que c'est vraiment le chapitre le plus clair, le plus développé sur la résurrection. Mais on va lire certains passages. On va lire 1 Corinthiens 15, versets 3 à 8 et 11 pour commencer. Je vous ai transmis, donc c'est Paul qui parle aux Corinthiens, comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme à celui qui suis venu après coup. Et puis au verset 11, « Bref, que ce soit eux ou que ce soit moi, dans les autres apôtres ou Paul, voilà le message que nous proclamons et voilà aussi ce que vous avez cru. » Dans ce passage qu'on vient de lire là, il résume l'essentiel de l'évangile, son contenu historique. Il dit que Jésus est mort sur une croix, qu'il a été mis dans un tombeau, puis ressuscité le troisième jour. Ces événements, d'abord, ils accomplissaient les Écritures de l'Ancien Testament, ça ne sortait pas de nulle part, comme étaient annoncées les Écritures, et ils sont présentés comme s'étant réellement déroulés. Jésus est apparu à Pierre, aux 12, à Jacques, à tous les apôtres, et à 500 frères à la fois, dont la plupart étaient encore vivants. Sous-entendu, il est en train de dire aux Corinthiens, vous pouvez aller vérifier auprès d'eux, ils sont toujours vivants. Donc l'espérance de l'Évangile, on voit, repose sur des faits qui sont produits, qui sont déroulés dans l'histoire. C'est une espérance sûre, fondée sur des faits historiques, pas sur des théories. Il s'est vraiment passé quelque chose. Ce n'est pas sorti de la tête d'un philosophe. Il y a eu une révélation. Dieu s'est incarné dans l'histoire. Jésus-Christ a vécu des événements précis qui ont une portée pour nous. Imaginons quelqu'un qui vient d'une autre planète. dans cette personne qui vient de notre planète, vous lui expliquez qu'il existe une loi physique appelée la loi de la gravité. Et imaginons qu'elle n'existe pas sur cette planète. Hein. Je ne suis pas un grand scientifique, hein. C'est sûrement universel cette loi, mais on va imaginer ça. Et à cause de cette loi, vous lui expliquez que si vous sautez d'une falaise, vous vous écrasez. Alors si ce dernier a du mal à vous croire, vous pouvez toujours l'amener en haut d'une falaise et lui demander de jeter une pierre. Pas lui, hein. Je vous vois rigoler là. Non. Vous lui demandez de jeter une pierre en lui expliquant que ce qui s'est passé avec la pierre, sa chute va se passer pareillement avec lui, avec toute personne qui saute de la falaise. Que vous y croyez ou non, c'est une loi, un fait scientifique, hein, vérifiable. Vous pouvez y croire ou non, mais c'est une réalité qui ne changera pas selon votre croyance. Si vous sautez en vous disant « non mais moi j'y crois pas, c'est de la bêtise ça, et comme j'y crois pas, ben, ça va pas se passer », ça ne va pas marcher. Hein ? La résurrection de Jésus est présentée à 1 Corinthiens 15 comme un fait historique, vérifiable auprès de témoins. Et si elle est vraie, c'est là la clé, cela signifie que la mort a été vaincue. Et c'est sur ça que va reposer notre espérance, sur un fait historique qui est, sur la résurrection, qui est la résurrection de Jésus. Et il n'y a aucune raison de ne pas y croire, sauf si vous avez des a priori, et que vous avez décidé que tous ces témoins, les plus de 500 et tous les apôtres, sont des menteurs, et ce qui voudrait dire qu'ils risquent leur message, leur vie, pour un message auquel ils ne croient pas vraiment, qu'ils savent que c'est du pipeau. Parce que tous les premiers apôtres, quand ils ont prêché, tous les premiers chrétiens, c'était quand même, on voit souvent que c'était assez dangereux. Hein. Ça risquait, ils risquaient de finir lapidés, de finir lynchés, mais c'était pas si simple que ça. Et certains continuent, à notre époque, à risquer leur vie dans les pays persécutés, parce qu'ils croient à la résurrection de Jésus. Mais certains Corinthiens, influencés par leur arrière-plan grec, parce que c'est ce que pensaient les Grecs, méprisaient le corps et ne pouvaient imaginer que l'espérance chrétienne comprenait la restauration de ce corps. Ils le voyaient comme une prison de l'âme. Alors que dans la Bible, la Genèse nous enseigne que Dieu nous a créés parfaits, le corps et l'âme. Le problème, donc, ce n'est pas le corps, d'après la Bible, mais le péché qui l'a affecté, tout comme il affectait notre être intérieur. On va lire à la suite du passage, à 1 Corinthiens 15, versets 12 à 34. Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des corps, des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Il y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, le Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis au Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie, et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car tout comme la mort a fait son entrée dans le monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque le Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car comme il est écrit, Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Mais quand l'Écriture déclare « tout lui a été soumis », il faut de toute évidence en accepter celui qui lui a donné cette domination universelle. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité du Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi Dieu sera tout en tous. D'autre part, pourquoi certains se font-ils baptiser au péril de leur vie ? S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, pourquoi donc courir un tel risque en se faisant baptiser au risque de mourir ? Et nous-mêmes, pourquoi affronterions-nous à tout moment les dangers de mort ? Journellement, je vois la mort en face, frère, aussi vrai que je suis fier de vous à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, notre Seigneur. Si la lutte que j'ai soutenue à Éphèse, véritable combat contre des bêtes sauvages, n'a été inspirée que par des motifs purement humains, à quoi cela m'a-t-il servi? Si les morts ne ressuscitent pas, alors, comme le dit le proverbe, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez une fois pour toutes à votre bon sens et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Donc, on voit que les versets 19 et 20, juste je relis ces deux versets là. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Donc on voit que ces versets soulignent que notre espérance n'est pas que présente, okay, et pas seulement spirituelle. Au contraire, elle inclut notre corps après la mort. Parce que Jésus est ressuscité, tous qui ont mis leur confiance en lui ressusciteront. Notre histoire est liée à celle de Jésus. Nous sommes en lui, il est notre représentant. Et nous ressusciterons de quelle résurrection? De celle de Jésus. Pas de la résurrection de Lazare, qui est mort quelques années après. Quand Lazare est ressuscité, il a retrouvé son corps d'avant. Puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a continué à vivre et puis il est mort. Jésus est ressuscité pour l'éternité. C'est cette résurrection-là dont nous allons ressusciter aussi. Hein. Et par contre, on parle bien d'une résurrection corporelle dans tout ce chapitre. Donc ça veut dire que si nous nous imaginons flottant comme des âmes désincarnées ou comme des anges jouant de la harpe au milieu des nuages, bien, notre vision de l'espérance n'est pas construite sur la révélation qu'a fait Dieu dans sa parole. Ce sera une vision, une espérance corporelle dans un environnement où le mal aura été anéanti. Verset 24, puis viendra la fin lorsque le Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Et parmi les ennemis de Dieu qui seront vaincus, le dernier sera la mort, qui sera vaincu comment? Par la résurrection. Regardez le verset 26. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et la suite, car... Oui, voilà, c'est la mort, donc ce sera par la résurrection. Hein. Donc la mort n'est jamais vue comme la libération d'une prison corporelle, comme un échappatoire, mais toujours comme un ennemi dans les Écritures. On n'est pas délivré de notre corps, mais du péché et de sa conséquence principale qui est la mort. Le jour, rappelez ce qu'avait annoncé Dieu à Adam en parlant du péché et de la mort, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Jésus est venu pour renverser cette malédiction, il a vaincu la mort, il est ressuscité, et nous entrons dans sa victoire, dans sa résurrection. Le prix du péché et la mort a été payé par Jésus à notre place et nous nous héritons de la vie éternelle qui nous a acquis à notre place. C'est le joyeux échange de l'évangile. Et voilà, pour terminer ce passage, juste on va relire le verset 34 parce que ça peut éclairer pourquoi les Corinthiens croyaient, certains Corinthiens n'y croyaient pas à la résurrection aussi. Regardez ce qu'il dit, revenez une fois pour toutes à votre bon sens et ne péchez pas. Car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Donc peut-être que certains qui ne croyaient pas à la résurrection de Jésus, à la résurrection corporelle de Jésus et à la résurrection des corps, après surtout là, l'apôtre Paul est en train de remettre en doute leur foi. Quoi. Il leur dit, est-ce qu'ils peuvent fréquenter l'église sans avoir vraiment cru, sans être passé par une régénération, ce qui expliquerait entre autres leur aveuglement là-dessus. Hein. Puis dans la suite du passage, Paul explique que le corps qui meurt après est un corps naturel, touché par le péché, mais qu'il ressuscitera incorruptible, vivifié par l'esprit en tant que corps spirituel. Nous aurons toujours un corps, mais ce corps, ben on va dire presque qu'il sera encore plus humain, parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas l'humanité, c'est le péché qui a affecté l'humanité. Le péché nous a affecté l'image de Dieu dans tout notre être complet. Et nous allons renaître vivifiés par l'esprit, par un corps, on ne sait pas exactement comment il sera, mais il sera d'une manière plus solide, on peut dire un petit peu, parce que vivifié par l'esprit. On va lire les derniers versets du chapitre 15, du verset 49 à 58. Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Ce que je dis, frère, c'est que nos corps de chair et de sang ne peuvent accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire ? Ô mort, où est ton dard ? Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Donc, le verset 53 souligne qu'on ne va pas être dépouillé. C'est pas ça à quoi on aspire. C'est pas être dépouillé de notre corps, mais revêtu d'un corps nouveau. Et la victoire sur la mort passera par la résurrection des corps. On va relire le verset 53. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. C'est à cela que Paul aspire et qui pousse les chrétiens à aspirer. Et juste après, verset 54-55, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, dont il parle de la résurrection, se trouvera réaliser cette parole de l'Écriture, la victoire sur la mort a été remportée. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton dard ? Donc la victoire sur la mort arrivera à la résurrection des corps. Ça signera la victoire sur la mort. Elle a été vaincue par Jésus-Christ. Il était le premier fruit d'une toute une moisson. Et cette victoire sera totale dans toute son ampleur au retour de Jésus-Christ quand nous ressusciterons dans notre corps. Et le tout dernier verset qui commence par « C'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. » Si Paul commence la phrase par « c'est pourquoi », ça veut dire que ce qu'il est en train de dire est une conséquence de tout le reste. Puisque Jésus est ressuscité, nous avons une espérance sûre que nous ressusciterons aussi. Puisque nous ressusciterons, ça ne finit pas ici la vie. Et c'est pourquoi, donc je le relis une dernière fois, mes chers frères, soyez fermes. Donc ça a une influence sur notre foi de croire cela. Ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Ce qui veut dire que le Seigneur va racheter nos œuvres. Nos œuvres vont nous suivre. Quoi que nous fassions actuellement sur cette terre, nous donnons à la fois un avant-goût de ce qui va se passer et à la fois ça va être transporté, nous semons pour l'éternité. Ça ne va pas finir là. Donc vous êtes, tout ce que vous faites en communion avec le Seigneur, notre peine pour le Seigneur n'est jamais inutile. Que ce soit aider un frère, le soutenir, travailler dans les milieux sociaux, soigner les gens, enseigner, quoi que ce soit, si vous le faites pour le Seigneur, je ne sais pas comment exactement, on ne comprend pas tout, on a des aperçus, le Seigneur va le transporter de cet âge à l'âge à venir. Notre peine pour le Seigneur n'est jamais inutile. Voilà ce par quoi finit ce chapitre pour nous exhorter. Donc ce que l'on pense de la vie d'après va avoir une influence sur la manière dont on vit la vie dans le présent. Ce n'est pas déconnecté, pas du tout. Voilà, vous avez un petit résumé de ce chapitre. Hein. Une espérance fondée sur la résurrection de Jésus, une espérance corporelle, la mort est vaincue par la résurrection, et une espérance qui agit en nous dès le présent, car notre peine pour le Seigneur n'est jamais inutile. Voilà. Mais ce n'est pas tout. On va continuer encore un petit peu, il y a encore mieux. C'est que l'espérance chrétienne concerne bien plus que nous. Elle va au-delà de notre personne. C'est la création tout entière qui va être renouvelée, qui va être rachetée de la corruption dans laquelle le péché d'Adam l'a plongée. Et tout cela, on peut le lire dans Romains 8, où Paul décrit l'étendue de la rédemption. Alors on va lire Romains 8, les versets 16 à 30. Excusez-moi, j'ai des problèmes de lunettes alors. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous rendent témoignage ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Car c'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son plein gré, mais à cause de celui qui y a soumise. Il a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, nous qui avons reçu l'Esprit, comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu, quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui en effet continue à espérer ce qu'il voit ? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas comment prier, de ne pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu, qui scrute les cœurs, sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Car ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Donc on voit dans ce passage très riche plusieurs choses. D'abord au verset 18, Paul décrit la vie présente comme marquée par la souffrance, bien qu'il s'adresse à des chrétiens. Et ce n'est pas si étonnant quand on lit plusieurs passages de Paul, et entre autres par exemple quand il exhorte avec Barnabas les frères d'Iconium, de Lystre et d'Antioche, en Actes 14, 22, regardez, il les rencontre, il va fortifier leur foi, écoutez bien. Il fortifie les disciples et les encourageait à demeurer fermes dans la foi, car, leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc Paul a pour habitude de présenter, et je crois à la Bible en général, le temps présent comme quand même marqué par la souffrance et la vie future comme celle où va se révéler la gloire. Et il dit même qu'il n'y a aucune mesure, aucune commune mesure. En fait, il dit que c'est incomparable. Alors si Paul dit cela, ce n'est pas que c'est un chrétien en difficulté qui aurait une communion médiocre avec son Seigneur et qui déprimerait parce qu'il penserait avoir raté sa vie. Hein. Je ne pense pas hein, quand on lit la vie de Paul. En tout cas, il n'a pas raté aux yeux de Dieu. Il a peut-être raté aux yeux des hommes parce qu'il a fini en prison. Enfin, il a eu beaucoup de difficultés. Peut-être que pour la société romaine, il a raté, mais aux yeux du Seigneur, il n'a pas raté. Et Paul, donc si Paul dit ça, c'est qu'il est émerveillé par l'espérance et par le retour de Jésus. Et quand il met les deux en contraste, il aspire à cela. Voilà. Et puis, suite à cela, à cette première introduction, comme quoi il n'y a aucune commune mesure entre la gloire à venir qui nous est réservée et la souffrance du temps présent, le texte nous présente un triple gémissement. Mais ce n'est pas un gémissement de désespoir, mais au contraire une aspiration pour le meilleur qui nous est réservé. C'est un gémissement rempli d'espérance. Le premier gémissement, c'est celui de la création, qui gémit en attendant la révélation du Fils de Dieu, au verset 19. Car elle était soumise au pouvoir de la fragilité. Et vous savez quoi, le mot pouvoir de la fragilité, c'est le même mot qui dit vanité des vanités, tout est dérisoire, dit l'Ecclésiaste. Il y avait des savants juifs qui avaient traduit la Bible en grec du temps de l'Antiquité, pour que les gens de langue grecque puissent la lire. Et en traduisant la Bible en grec, le mot vanité des vanités, tout est dérisoire, c'est le même mot que Paul prend là pour parler de la fragilité de la création, du pouvoir de la fragilité. C'est ce même mot. Voilà. À vue d'œil, la création, ben, on le voit, ça tourne pas rond. Elle attend quelque chose de mieux. Elle aspire à la libération des enfants de Dieu. Et la création gémit en attendant la révélation des fils de Dieu, parce que ce n'est pas nous seulement qui allons être renouvelés, glorifiés, mais la création au complet. Adam l'avait entraîné dans sa chute. Jésus-Christ l'a fait participer à sa résurrection, au renouvellement de toutes choses. Et Adam l'avait entraîné dans la fragilité, et la gloire qui va se révéler en nous va déborder dans la création. Son gémissement va se trouver exaucé. Et puis nous aussi, nous gémissons actuellement dans la suite du passage. Et Paul s'associe à nous. Hein, ce qu'il dit nous, il ne dit pas vous gémissez. Donc ce n'est pas mal de gémir dans ce monde actuel, du gémissement de Romains 8, pas un gémissement où on déprime, on a quand même la joie du salut, mais en même temps, on aspire à mieux. On sait qu'il va avoir mieux. C'est une aspiration à la pleine réalisation des promesses de Dieu. Au verset 23, il dit que nous avons reçu l'Esprit comme un avant-goût de la gloire. Un avant-goût seulement. Ce n'est pas pour minimiser ce que nous avons reçu, mais pour magnifier ce qui nous attend. Et en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu. Ça veut dire que si nous attendons d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu, nous ne le sommes pas encore. Le salut n'est pas pleinement accompli. Et quand le sera-t-il? Quand notre corps sera délivré. Pas quand on sera délivré dans notre corps, quand notre corps sera délivré de la mort. On en revient un peu à ce qui était dit dans 1 Corinthiens 13, 15. Là, Pour le moment, nous sommes sauvés en espérance. Et le plein accomplissement du salut sera la résurrection du corps, pas notre mort. Même si nous allons rejoindre la présence du Seigneur, ce sera un temps d'attente, attente de la venue de Jésus pour racheter notre corps dans lequel nous vivrons sur des nouveaux cieux et une nouvelle terre, une création renouvelée. Et d'ailleurs, Jésus lui-même est monté auprès de son Père, avait son corps glorifié. Il n'est pas monté en esprit, il est monté avec son corps. Et au début des actes, les anges disent « Pourquoi vous le regardez partir comme ça? Ne vous inquiétez pas, il va revenir de la même manière. Il demeure auprès de Dieu d'un corps glorifié. » Ça montre l'importance que Dieu accorde au corps humain et l'espérance qu'il nous accorde. Et enfin, le dernier gémissement de ce passage, c'est l'Esprit lui-même qui intercède pour nous en gémissant d'une manière inexprimable. Donc Paul dit que nous sommes faibles, que nous ne savons pas vraiment comment prier. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne dit pas « vous ne savez pas comment prier, vous êtes faibles ». Donc c'est normal dans ce temps présent, marqué par le péché, de se retrouver dans cette situation, même quand on est racheté, même quand on entretient une communion avec Dieu, des fois d'aspirer à mieux et d'être en difficulté. C'est quelque chose qui fait partie de la vie chrétienne. On peut des fois avoir tendance à vouloir être toujours dans un discours triomphaliste, mais ce ne serait pas un discours réaliste. Mais on a le soutien de l'Esprit, bonne nouvelle. L'Esprit lui-même intercède pour nous dans cette situation et se joint à nous et accompagne notre gémissement par le sien. Cela signifie que l'Esprit lui-même aspire à ce renouvellement. Et dans ce temps présent de vanité, marqué par la souffrance, où il y a ce triple gémissement, de la création, des croyants et de l'Esprit, ben ce dernier, l'Esprit, il agit en notre faveur pour faire concourir toutes choses à notre bien, même si celles qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas agréables du tout. Toutes choses. On va relire le verset 28. Nous savons en effet, en outre, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Okay. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Donc, on voit que le bien que vise Dieu pour nous, d'après le verset 29, c'est d'être transformé à l'image de son Fils. Ce ne sont pas forcément des bénédictions pour notre bien-être à nous, elle n'est pas la main de Dieu, mais ça vise à nous transformer à l'image de son Fils. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas vous accorder des choses. On a tous vu la main de Dieu dans notre vie. Mais le but ultime de Dieu, c'est de nous transformer à l'image de son Fils. C'est ça les bénédictions qu'il nous donne. Et pour cela, pour accomplir de notre destinée, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a appelés, il nous a déclarés justes, il nous a conduits à la gloire. Ça, c'est étonnant, à la fin, il nous a conduits à la gloire. C'est un verbe au passé pour exprimer quelque chose de futur. Comment ça se fait? Dieu utilise un temps passé pour parler de notre glorification future tant il est certain d'accomplir son plan. Ce que Dieu a commencé, il va le mener jusqu'au bout. Entrer dans notre destinée, donc tout ce qui est la résurrection aussi, en fait tout ce qui touche à la résurrection, à notre espérance, c'est aussi un incroyable témoignage de la fidélité de Dieu. Ce que Dieu a commencé avec la création, il y a eu la chute, Dieu n'a pas laissé tomber. Il y a eu la rédemption qui va aller jusqu'au bout, jusqu'à l'espérance future. Donc, entrer dans notre destinée, c'est tout simplement laisser l'Esprit nous transformer petit à petit à l'image de Jésus, en utilisant toutes choses pour cela, toutes les circonstances de nos vies, toutes nos relations, les relations avec fraternelles, amicales, sur nos lieux de travail, dans nos associations, dans notre club de sport, dans notre famille, à l'église. Des fois, ça frotte. C'est pas toujours comme on voudrait, c'est pas parfait. Parce qu'on est encore dans un temps marqué par le péché, soit pour plus tard les relations parfaites. Mais Dieu va utiliser tout cela pour nous transformer à son image, à l'image de son Fils. Voilà un petit peu notre destinée, avant d'être totalement transformé quand Jésus reviendra. Et on va aussi, cette espérance éternelle, on va aussi en voir quelques aperçus rapides au travers du langage imagé et symbolique de l'Apocalypse. Alors, il n'y aura peut-être pas de projection là, c'est pas grave. On va juste lire quelques versets dans l'Apocalypse qui nous donnent un avant-goût de tout cela. Apocalypse 21. Je vais lire les 7 premiers versets. « Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » On va s'arrêter là, et je vais juste lire les versets 9 et 10. « Alors l'un des sept anges qui tenait les sept coupes pleines des sept derniers flots vient me parler. « Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Il m'amena en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. » Donc on voit dès le début, au verset 1 et 2 et le verset 9 et 10 qu'on vient de lire là, il y a des images de communion avec Dieu qui sont soulignées. La rencontre avec Dieu est présentée comme la rencontre de l'épouse et de l'agneau. La nouvelle Jérusalem est présentée comme l'épouse. De suite, on voit que une des grandes bénédictions, sinon la grande bénédiction, là on a parlé tout à l'heure de la bénédiction de la résurrection pour elle, qu'on va vivre cela d'aller nous sur la nouvelle terre, mais en fait, tout cela est lié à la relation qu'on va avoir avec Dieu. Parce que si on vous donne les meilleures conditions, est-ce que vous préférez manger un festin incroyable avec des gens que vous ne connaissez pas, ou vous préférez manger un repas simple avec des amis avec qui vous êtes proches? Là, on aura les deux. On aura un festin incroyable, mais dans des relations avec le Dieu qui nous a sauvés et avec tous nos frères et sœurs. Mais la bénédiction principale, elle sera relationnelle, et c'est de là que va découler tout le reste. Il y a l'image de la communion entre l'époux et l'agneau, entre Jésus et l'Église, et puis il y a aussi Dieu qui est présenté après comme pleinement présent au milieu de son peuple. Sa tente est plantée et c'est lui qui essuiera les larmes de nos yeux. C'est grâce à sa présence que la mort, le deuil, la souffrance, la plainte ne seront plus, car tout ce qui était autrefois a définitivement disparu. Donc il nous est parlé là de tout ce qui était autrefois, c'est-à-dire ce qui existe maintenant. La disparition de la mort, du deuil, de la souffrance et de la plainte, c'est pour plus tard, lorsque Jésus reviendra. C'est sa présence glorieuse qui effacera tout cela. Et c'est lui que nous attendons. Regardez quelques versets après par rapport à sa présence. Versets 22 et 24. « Je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. » Donc on voit que c'est la présence de l'agneau qui change tout. Et dans cette attente actuelle, puisque nous sommes dans le temps de l'attente, nous avons une communion avec lui, mais elle n'est pas parfaite. Par exemple, on voit Paul et c'est normal. On aspire à mieux, mais il faut savoir qu'on n'aura pas la perfection. On voit Paul qui nous dit, aujourd'hui, certes, dans 1 Corinthiens 12, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Paul, il court vers le but aussi. Nous courons vers le but, mais nous n'atteindrons pleinement qu'au retour de Jésus. Il dit, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir. Ce qui veut dire que oui, on désire plus connaître le Seigneur. Oui, on désire vivre une vie de sanctification. C'est une bonne chose. La Bible nous pousse à cela. Mais en même temps, la Bible nous dit, attention, il n'y aura pas de sanctification totale sur cette terre. Ce sera pour plus tard. L'apôtre Jean, il dit, écoutez, ça c'est incroyable. « Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Donc on l'est, mais on ne l'est pas complètement. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance seront eux-mêmes purs, comme le Christ est pur. Donc on voit que l'apôtre Jean, cette espérance, il l'utilise comme une motivation pour notre vie présente. Ce qu'on pense de la vie future agit sur notre vie présente. Imaginez une fiancée ou un fiancé, et puis, voilà, on va dire, un fiancé, sa fiancée part en voyage pendant un ou deux ans pour ses études ou ses professionnels, qu'importe, pendant un ou deux ans, ils vont être séparés. Eh bien, normalement, si le fiancé aime sa fiancée, il va se garder pur. S'il y a une autre fille qui passe par là et puis commence à s'intéresser à lui, il va lui dire, non, mais moi, je suis déjà fiancé, j'attends ma fiancée, il va se garder pur. Et s'il cède aux sirènes de l'autre fille, eh bien, c'est qu'il n'aimait pas vraiment la première. Hein? Donc, si nous sommes motivés par notre amour pour le Seigneur, en attendant qu'il revienne, nous savons qu'il nous transformera son image, mais c'est de motivation pour marcher avec lui. Nous allons paraître devant lui, nous serons transformés en son image, et le Saint-Esprit a commencé cette œuvre qu'il finalisera au retour de Jésus. On est dans un processus. Et comme on a vu tout à l'heure, nous ne savons pas toujours comment prier dans notre faiblesse aussi. Mais dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, toutes nos prières seront parfaitement accordées à la volonté de Dieu et exaucées. Je vous lis un verset là-dessus qui m'a parlé, c'est dans Ésaïe 65, qui parle, c'est un passage qui parle beaucoup des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Et entre autres, il est dit au verset 24, « Alors, avant qu'ils ne m'invoquent, je les exaucerai, ils parleront encore que j'aurai déjà entendu. » Nous avons aussi le Saint-Esprit en acompte, hein? Éphésiens 1, 14, c'est cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du Dieu en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. À ce moment-là, quand nous serons délivrés, nous l'aurons pleinement le Saint-Esprit lorsqu'il vivifiera nos corps ressuscités. On pourrait continuer cette liste longtemps, hein, y mettre tout ce qui est tordu, incomplet. Peut-être que là parmi nous, il y a des gens qui souffrent dans leur corps. Des gens qui souffrent relationnellement, des gens qui souffrent avec une lutte pour le péché, parce que des fois Dieu délivre certains rapidement de certaines choses, et puis certains vont avoir à faire toute leur vie à la lutte contre certaines tentations. Certains vont être embêtés relationnellement, toute leur vie sera jamais facile pour eux d'avoir des relations, parce que même s'ils sont chrétiens, ils ont eu une certaine éducation, ou qu'importe, ils ont du mal. Nous continuons à prier, Dieu va accorder des guérisons. Mais en même temps, même si l'accord des guérisons, on sait qu'à la fin, on meurt. Ça veut dire que nos artères sont détériorées. Et que la pleine guérison, ce sera quand Jésus-Christ reviendra. Hein? N'inversons pas les temps. N'inversons pas les temps. N'essayons pas de vivre ce qu'il nous a promis plus tard, maintenant. Dieu va donner des avant-goûts de la résurrection. Toute guérison est un avant-goût de la résurrection. Mais Dieu, ce qu'il promet actuellement, c'est le pardon des péchés. C'est sa présence à nous pour nous accompagner à tout moment. Et c'est pour l'avenir. Une espérance incroyable. Actuellement, c'est le temps pour lui faire confiance, même quand on ne comprend pas. Et méditer sur notre espérance future produit déjà la joie dans le présent. Hein. On se réjouit en espérance, mais cette joie est bien réelle et présente au milieu de l'épreuve. Je vais vous lire un tout dernier passage, je vous promets, c'est vraiment le dernier. Parce qu'il est, il parle tellement clairement de ça. C'est Pierre dans sa première épître. Regardez ce que dit Pierre sur la joie que produit l'espérance. Verset 3, premier chapitre. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ entre les morts pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut, qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie. Donc là, il parle au présent. Le salut futur fait notre joie présente. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Celle-ci sert à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. On est dans le temps de la foi. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. Donc on voit la relation entre le futur et le présent, et le Saint-Esprit qui, dans le présent, nourrit notre cœur de l'espérance et le réjouit de cette espérance à venir. Et méditer sur notre espérance future, ça va aussi affermir notre foi et nous donner du zèle pour le Seigneur, comme on a vu tout à l'heure. Car toutes nos œuvres vont nous suivre, seront rachetées. Et enfin, méditer sur notre espérance future nous donne envie de s'écrier avec l'apôtre Jean à la fin de l'Apocalypse, « Viens, Seigneur Jésus !» Car toutes les bénédictions vont découler de sa présence. Et la plus grande bénédiction sera sa présence à lui, Jésus lui-même. Nous verrons enfin celui qui nous a tant aimés et qui a donné sa vie pour nous. Prions. Seigneur, nous ne comprenons pas tout actuellement,